dans le rendez-vous jeu, un mini épisode solo. Je pensais pas faire un épisode avant de vous abandonner pendant les vacances, mais finalement il s'est passé quelques trucs et puis je me suis dit allez, normalement il y en aurait eu un lundi, mais bon, j'ai pas pu m'empêcher. Et surtout, on a des trucs intéressants à discuter, comme l'annonce de la nouvelle Switch, la Switch Lite, qui a eu lieu il y a quelques jours à peine maintenant. Donc je me suis dit, allez, un petit épisode rapide, et comme ça, ça permettra de partir en vacances de bonne humeur. Je dis souvent un petit épisode rapide, mais là, je pense que ça va être vrai. Généralement, il dure une heure ou une heure et quart, où je déblatère tout seul, mais là, je crois que je vais me limiter quand même un petit peu, on verra ce que ça donne. Le sujet principal, évidemment, c'est cette annonce de la sortie à venir de la Switch Lite, version portable uniquement de la Nintendo Switch, qui arrivera en novembre. Et je vous propose qu'on se lance immédiatement avec les trucs que tout le monde sait et que tout le monde a déjà dit. C'était prévu, on va dire, l'arrivée de cette Switch. On avait des rumeurs depuis des mois sur le fait que Nintendo était en train de travailler sur deux nouveaux modèles. Un plus simple et un plus... Bon, on va faire... plus simple, un moins cher et un plus cher. Donc là, on a effectivement eu le modèle moins cher qui a été annoncé. Ils ont dit clairement que c'était le seul nouveau modèle de Switch pour cette année. Donc ne vous attendez pas à une annonce à venir d'une Switch Pro dans les semaines ou les mois à venir. Il faudra attendre a priori 2020 pour ça. Je n'aurais pas surpris qu'elle arrive effectivement en 2020 pour inciter tous ceux qui ont déjà acheté une Switch classique à renouveler leur appareil et peut-être refiler l'ancienne Switch à un enfant ou quelqu'un comme ça. C'est d'ailleurs, je pense, le cas d'usage principal de cette Switch Lite. Alors, on va, avant de parler de ça, détailler les aspects techniques. Elle est effectivement plus légère, 275 grammes contre 398 grammes, très exactement, pour la Switch actuelle. Donc, on va dire un bon tiers de poids en moins. Elle est également plus petite. Et plutôt que vous donner des chiffres en millimètres et en centimètres, j'ai un moyen très simple de visualiser ce que ça donne. En fait, en longueur, la Switch Lite fait à peu près, à peu de choses près, la taille d'une Switch classique quand on enlève les Joy-Con et un Joy-Con. Donc, c'est une Switch et un Joy-Con, en fait, la Switch Lite. Donc, il y a quand même, c'est quand même une taille significativement réduite. Ce n'est pas une console minuscule, hein, elle reste plus grande que toutes les 3DS et toutes ces consoles, et même plus grande qu'une PlayStation Vita, je pense. Mais c'est quand même plus petit qu'une Switch classique, qui, il faut l'avouer, est quand même un petit peu massive, même si elle est effectivement portable. Au-delà de ça, il y a un écran plus petit, 5,5 pouces contre 6,2, et on a la même résolution, on est en 720p, des haut-parleurs stéréo, etc. Les Joy-Con sont fixés à la machine, on ne peut pas les détacher, et il n'y a plus de HD Rumble, ni de Rumble du tout d'ailleurs, si je ne m'abuse, ni de tracker infrarouge comme sur le Joy-Con de droite sur la Switch classique. Donc si on veut utiliser les jeux qui font ça, qui ont besoin de ça, et ben, il faut connecter sans fil un Joy-Con qu'on aura acheté en plus. Bon, la plupart des gens ne le feront pas, ça a très très peu d'intérêt. Et surtout, l'aspect principal, qui est le plus important et qu'ils ont très clairement dit dans la vidéo, et heureusement, c'est le fait qu'elle ne peut pas se connecter à une télévision du tout. C'est pas qu'on peut acheter un adaptateur filaire, machin, ça se connecte pas à la télévision du tout. Donc, c'est un moyen... J'imagine qu'ils auraient pu ajouter les composants pour le connecter à la télé, plus ou moins. Peut-être que ça aurait été compliqué parce que ça nécessite une augmentation de la fréquence du processeur de l'appareil pour qu'elle puisse afficher du 1080p. Et du coup, ça veut dire que là, ils peuvent utiliser des puces qui n'ont pas besoin de monter en fréquence. Donc, ça aurait quand même changé un petit peu les choses dans la machine, mais ça aurait été possible. Je pense que la raison, encore plus que le coût matériel de cette décision, c'est que ça leur permet de segmenter le marché de manière très intelligente. C'est-à-dire qu'il y a la console portable tout court, mais si vous voulez une portable qui fasse quand même console de salon, eh ben, il faut payer 100 € de plus. Et s'il y a des gens qui seront intéressés par une version uniquement portable, je pense que beaucoup d'entre nous, et c'est ce que je conseillerais moi aux auditeurs qui n'ont pas encore de Switch, je dirais la Switch qui se connecte à la télé, c'est quand même plus cool et ça vaut les 100 € de plus, même si elle est un petit peu plus grosse. Bien sûr, si vous avez une utilisation qui est très spécifique en portable 99% du temps, et je sais qu'il y a des gens qui utilisent leur Switch quasiment uniquement en portable, ça peut évidemment valoir le coup de considérer la console moins chère, hein, c'est évident. Mais je trouve que le fait d'avoir la possibilité de la brancher sur la télévision, c'est un gros plus. Et bon, évidemment, c'est l'aspect principal de la Switch, c'est son branding, c'est son nom. Et oui, c'est qu'une marque hein, au final. Le fait que la portable s'appelle Switch, mais qu'elle ne puisse pas switcher, c'est pas la fin du monde, c'est pas la peine de sortir votre calepin de blagounette super marrante, c'est pas vraiment un gros souci ça. Mais quoi qu'il en soit, le fait de pouvoir le faire, c'est quand même un avantage et je pense que pour les gens comme nous qui sont des gros gamers, si vous n'avez pas encore de Switch et que vous hésitez, si vous en avez les moyens, je dirais ça vaut quand même le coup d'investir dans une console un petit peu plus... qui peut aussi vous, se connecter à la télé. Maintenant, à côté de ça, avec la console qui sort en novembre, je ne sais plus si je l'ai dit, mais elle sort en novembre, et elle est... c'est le 20 novembre ? Je ne sais plus. C'est en septembre ! Qu'est-ce que je raconte ? Je crois que dans Pixel, ce que je viens d'enregistrer, d'ailleurs, si vous écoutez parfois les deux, ce n'est pas la peine, parce que là, c'est exactement la même chose, mais je crois que j'ai dit en novembre. Bref, c'est le 20 septembre, elle est hyper intéressante pour les gens qui vont vouloir jouer à Pokémon, par exemple. Il y a plein de gens qui vont l'acheter pour Pokémon. Et je crois qu'il y a aussi plein de gens qui vont l'acheter pour la donner aux enfants, pour qu'eux-mêmes puissent jouer à Pokémon tranquillement sur la télé, par exemple. Mais comme on l'indiquait il y a quelques temps déjà, je pense que la Switch est dans une position vraiment unique par rapport aux autres consoles pour être vendue en plusieurs exemplaires dans chaque foyer. Les autres consoles, tu ne vas pas acheter plusieurs PlayStation 4, hein, à moins que tu sois un petit peu particulier et que tu aies une très grande maison. Mais la Switch, c'est tout à fait cohérent d'en avoir plusieurs, en particulier avec cette nouvelle version qui est uniquement portable. Je crois qu'il est pas rare, il va pas être rare du tout d'avoir plusieurs Switch par foyer dans des foyers de gamers. Donc c'est une utilisation, une segmentation hyper intelligente, hyper intéressante de la part de Nintendo. Et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec la Switch Pro qui arrivera peut-être l'année prochaine. Je ne pense pas qu'ils vont faire une segmentation, enfin d'autres types de... Ah oui, l'aspect, il y a des jeux portables, il y a des jeux télé et il y a des jeux qui font les deux. La plupart des jeux font les deux, bien sûr. Ce n'est pas vraiment un problème. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des commentaires là-dessus. Ah, mais ça veut dire qu'il y a certains jeux qui marcheront sur telle ou telle console ou pas. C'est d'une part une infime minorité et d'autre part, effectivement, il y a quelques jeux comme ça qui ne seront pas compatibles, mais c'est vraiment pas la fin du monde. C'est tellement rare que ça veut dire que c'est anecdotique et en plus, ce n'est pas franchement les jeux les plus importants de la plateforme. L'immense majorité des jeux font les deux. Et donc, je suis curieux de voir ce qu'ils feront avec la Pro et je ne pense pas qu'ils feront comme avec la New 3DS. C'est-à-dire que je doute qu'ils fassent des jeux qui soient exclusifs à une version plus performante de la console. À mon avis, la différence viendra dans le design, peut-être un design amélioré, simplifié, allégé, rapetissé, ce genre de choses. Moi, j'aimerais bien voir une Switch Pro qui ait toutes les fonctionnalités de la Switch classique, mais qui fasse la taille d'une une Switch Lite, par exemple. Peut-être un petit peu plus de puissance pour que les jeux soient plus fluides, en particulier quand ils sont sur la télé, mais je ne pense pas que ça aille plus loin que ça. Mais bon, on verra. Là, on spécule et on n'y est pas encore du tout. Il y a deux choses que je voulais dire sur cette Switch Lite, au-delà de ce que les commentaires évidents qu'on a tous déjà fait. D'une part, c'est la confirmation que Nintendo a vraiment fusionné ces deux marchés traditionnels de portable et de maison et que ça leur permet d'utiliser leurs ressources de développement et leurs ressources traditionnelles de manière beaucoup plus efficace puisque désormais, quand ils développent un jeu, il est disponible tout de suite sur, entre guillemets, les deux plateformes qui n'en sont plus qu'une. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire au niveau des ventes. Je ne pense pas que quand il faisait un jeu sur 3DS et une même version du jeu sur, je ne sais pas, Wii U par exemple, ou bon, la Wii U est un mauvais exemple parce qu'elle c'est pas beaucoup vendu, mais je ne sais pas si l'addition est plus grosse que un jeu qui est disponible sur la Switch, donc sur les deux modes d'utilisation. J'imagine que oui, l'addition est quand même plus grosse, mais je crois qu'il y a une certaine valeur dans le fait de ne pas trop se disperser dans l'écosystème qu'on a aujourd'hui dans le jeu vidéo. Il y a tellement de possibilités pour les joueurs. Je crois qu'il vaut mieux, et c'est ce qu'ils nous ont montré, il vaut mieux se concentrer à faire quelques jeux d'immense qualité plutôt que d'en sortir un petit peu plus et d'avoir des jeux de moins bonne qualité, peut-être. C'est peut-être un petit peu ce qu'on a vu. En même temps, je ne sais pas si je suis complètement juste sur cette analyse, mais ce qui est sûr, c'est que le fait de se concentrer sur une plateforme et d'avoir cet écosystème simplifié pour Nintendo, je crois que ça clarifie les choses et ça donne une expérience meilleure pour les joueurs. Donc, au final, ça, c'est l'arrivée de la Switch Lite, c'est la confirmation de cette direction qu'ils avaient déjà pris avec la Switch tout court. La 3DS est vraiment sur la voie de la sortie, et la remplaçante de la 3DS, c'est la Switch qui était déjà là dans cette version Lite. C'est un positionnement qui, à mon sens, est vraiment intelligent. Ça leur donne une force unique dans ce marché qui continue à se développer et à s'étendre, et le succès de la Switch, je pense, va continuer à se confirmer avec cette nouvelle version. Je pense que c'est vraiment une approche très intelligente de la chose. Et l'autre chose que je voulais évoquer, c'est cette tendance d'avoir des jeux sur petit écran et grands écrans, des jeux qui soient les mêmes jeux. Parce que, encore une fois, c'était déjà le cas avec la Switch qui pouvait passer du mode portable au mode télé, mais je crois que certains n'y prêtaient pas forcément attention ou on ne s'était pas encore complètement rendu compte des problèmes que ça pouvait poser. Et je parle de problèmes comme la taille du texte, la taille des éléments d'interface et tout ça. Et là, ça confirme complètement que les jeux doivent être lisibles au sens large du terme et adaptés à ces deux modes de fonctionnement. Et ça s'inscrit dans la même direction que ce qu'on va voir dans les années à venir avec le streaming, c'est-à-dire que des jeux qui sont conçus pour la télévision vont devoir, dans certains cas, être également jouables et lisibles sur des écrans beaucoup plus petits, des écrans de téléphone avec le streaming. Et bien sûr, ça ne sera pas le cas là tout de suite l'année prochaine quand les services de streaming vont se lancer. Mais, on parle de cet automne, mais cet automne, ça va vraiment être une bêta. Donc, moi, je préfère parler de l'année prochaine. Mais d'ici, on va dire 2, 3, 4 ans, ça sera une des options. Et je pense qu'il n'est pas impossible que les outils de développement intègrent cet élément nouveau de cas d'usage du jeu vidéo. Et la Switch s'inscrit désormais, encore plus qu'avant, directement dans cette configuration. Et donc, c'est une manière d'approcher cette partie du développement qui va être importante et qui va être la même pour tous les acteurs de cette industrie. Donc, c'est un autre petit élément dont je pensais qu'il était intéressant de le mentionner. Donc, voilà pour la Switch Lite. Très belle annonce de la part de Nintendo qui continue à remonter dans mon cœur. Ils n'ont jamais quitté la place des tops 3 ou 5 de mon cœur, Mais là, il remonte en plus dans le monde du jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo, et ça me fait évidemment très plaisir. J'espère qu'ils vont continuer dans cette direction, et j'ai l'impression que ça va être le cas. Donc voilà pour Nintendo. Quelques autres petits sujets que je voulais évoquer. Les nouvelles cartes graphiques de Nvidia, qui sont donc les RTX, les nouvelles versions des RTX existantes avec Super comme nom additionnel. C'est un petit peu, bon, c'est pour se remettre au niveau de, ou combattre, on va dire, AMD avec ces nouvelles cartes. Mais moi, ce que je pense de ces cartes, c'est que ça reste pas vraiment le moment d'en acheter. La caractéristique principale étant le ray tracing et le fait qu'il n'y ait pas de jeux aujourd'hui, pas beaucoup de jeux, on va dire, qui tire profit de cette technologie. Je pense qu'on est à 2-3 ans d'avoir, avec la sortie des nouvelles consoles qui, elles, vont toutes faire du ray tracing, ce type de technologie intégrée vraiment au jeu. Et d'ici à 2-3 ans, eh ben, on aura des cartes moins chères, meilleur marché, enfin, mais plus performantes pour le prix, un meilleur rapport qualité-prix qu'elles ne le sont aujourd'hui, évidemment. Et on dit toujours ça, mais là, cet aspect du ray tracing fait que c'est vraiment le cas, à mon sens. Et il n'est pas du tout, à moins qu'on en ait un besoin spécifique avec des écrans à plus grande résolution ou à plus grande fréquence de rafraîchissement, etc. Mais je pense vraiment que là, ça vaut, à moins qu'on en ait un besoin urgent, ça vaut le coup d'attendre encore la prochaine génération. Parce qu'aujourd'hui, je doute que vous en tiriez profit autant que vous l'espéreriez. Donc, à voir, chacun prend ses décisions. Mais pour moi, je dirais, c'est pas forcément la peine d'y aller tout de suite, même avec ces nouvelles cartes. Attendez, j'irai 2 ans. Et là, vous pourrez vous lancer et en tirer vraiment parti. Quelques jeux et vidéos dont je voulais parler, il y en a juste 2 en fait. La première, c'est un nouveau mode pour le prochain Modern Warfare qui sort, enfin le prochain Call of Duty qui s'appelle Modern Warfare, qui sort cet automne. C'est le mode Gunfight où c'est du 2 contre 2. Sur des petites cartes assez ramassées. Ça se joue en round, hein, classique, mais je trouve que c'est une idée assez intéressante de faire du 2 contre 2 parce que ça situe le mode compétitif, ce mode compétitif, à mi-chemin entre les jeux de combat et les jeux les FPS ou les MOBA classiques où on joue en équipe. Parce que en jeu de combat, on est généralement 1 contre 1 et ça veut dire qu'on ne peut compter que sur soi-même et on ne peut se plaindre que de soi-même quand on ne gère pas bien une situation. Les jeux en équipe, on a toujours raison de se plaindre de ses coéquipiers. Et ben là, on est à mi-chemin, on peut jouer avec une personne, c'est très facile de monter une équipe, un duo. Et c'est vraiment compétitif, c'est pas comme les Battle Royale qui bien sûr sont compétitifs, mais je veux dire, il y a tellement de monde, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le test de capacité autant que sur un vrai FPS en mode teamfight. Donc je trouve cette idée du 2 contre 2, peut-être que ça a été fait ailleurs, mais là ça a l'air pas mal implémenté et je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que ça va me pousser à essayer Modern Warfare, à l'acheter au moment de la sortie ? Bon, ça serait peut-être plus parce que c'est Modern Warfare que pour cette histoire de gunfight, surtout que j'ai jamais de... Je suis vraiment devenu un joueur solo, mais peut-être, je sais pas. En tout cas, l'idée m'a paru intéressante pour cette raison. Remedy a sorti les 13 premières minutes de Control. Et en fait, j'ai tellement aimé les 4 premières minutes que j'ai arrêté de regarder après parce que je voulais pas me gâcher la surprise. Ça ne veut pas dire que je vais forcément que je suis conquis par Control et que je vais l'acheter à sa sortie, c'est fin août je crois, mais là où c'est intéressant, c'est que il y a eu, en fait il n'y avait pas du tout de gameplay dans ces 4 premières minutes, il y en avait ensuite et je ne l'ai pas regardé, ce qui est un petit peu stupide parce que les jeux se reposent évidemment majoritairement sur leur gameplay, mais l'ambiance m'a tellement plu que je me suis dit c'est un jeu qui a l'air mystérieux, envoûtant et que j'ai envie peut-être, si jamais les reviews sont pas trop mauvaises, je vais peut-être vouloir me plonger dedans comme je me plongerais dans un film dont je n'ai pas vu les trailers. Comme vous le savez peut-être, je ne regarde pas les trailers des films que je sais que je vais aller voir. Et donc là, il y avait un petit peu de ça, et je me suis dit, bon, je vais m'arrêter là. Et Control, ce n'était pas du tout un jeu que j'attendais, même si Remedy, j'ai beaucoup apprécié certains de leurs jeux. Et là, ça m'a un petit peu convaincu. Alors, évidemment, le gameplay est important aussi, mais je crois que certains jeux... Alors, si le gameplay n'est pas bon, c'est jamais bon, mais certains jeux dont le gameplay est moyen peuvent être sublimés par leur ambiance et leur histoire et être vraiment appréciables, même si, donc, comme je le disais, le gameplay n'est pas incroyable, il est un petit peu bateau, un petit peu classique. Et là, en plus, le gameplay n'a pas l'air d'être bateau classique, mais à savoir s'il sera bon, c'est une autre histoire. Mais donc, cette ambiance m'a vraiment intrigué. Donc, je suis passé de pas vraiment intéressé par Control à je vais garder un œil dessus. Donc, si vous avez l'occasion, regardez les premières minutes au moins de cette vidéo. Je pense que ça pourra vous intriguer aussi. CD Projekt Red, qui développe Cyberpunk 2077, a laissé entendre qu'ils avaient plusieurs équipes sur des jeux Cyberpunk, et ce n'était pas clairement stipulé si c'était plusieurs équipes sur Cyberpunk 2077 ou plusieurs équipes qui travaillaient sur... Alors, on sait qu'ils ont plusieurs équipes sur ce jeu-là spécifiquement, mais ça nous a mené à nous poser la question de savoir s'il y aurait d'autres jeux Cyberpunk, et peut-être même dans l'univers de Cyberpunk du jeu qui développe, 2077, donc d'autres jeux qui seraient en développement, ce qui serait pas si surprenant que ça, étant donné qu'ils pourraient créer du coup un engouement autour de la franchise et vendre d'autres jeux avec celui-ci qui est tellement attendu. Alors, ils n'ont pas confirmé, mais on se demande s'il n'y a pas d'autres trucs qui arrivent, sans doute des jeux moins ambitieux, évidemment. Mais c'était une petite, comment dire, une interprétation qu'on pourrait faire qui est assez excitante, parce que le jeu a l'air tellement bien réalisé que je pense que ça va donner envie de rester dans cet univers un petit peu plus longtemps que juste ce jeu. Donc voilà, à voir, on en entendra parler, je suis sûr, à un moment. Les jeux as a service, Warframe et Destiny, ils ont tous les deux eu leur convention de fans le week-end dernier, TennoCon pour Warframe et GuardianCon pour Destiny. Et TennoCon, c'est vraiment l'occasion chaque année de voir à quel point Warframe non seulement ne meurt jamais, mais à quel point il est riche et sa communauté est active. C'est un jeu que moi, je vous en avais déjà parlé, j'ai joué quelques dizaines d'heures, j'avais toujours l'impression d'être dans le tutoriel. C'est un jeu qui est tellement complexe et qui dure depuis tellement longtemps. Il est sorti en 2013 ou 2014 et tout le contenu est toujours accessible. Ils ont annoncé une nouvelle mise à jour qui s'appelle Empyrean, qui arrive cet automne, je crois, qui a plusieurs éléments. Il y a d'une part le fait qu'ils vont revoir l'expérience des nouveaux joueurs, ce qui est pas mal parce que c'est, comme je le disais, un petit peu complexe. Et d'autre part, il y a toute une mise à jour avec un nouveau vaisseau qu'on va pouvoir contrôler. On est plusieurs dans le vaisseau et on va pouvoir avoir différentes tâches à accomplir, et ensuite on va pouvoir se lancer sur la planète, sur une planète, voyager et puis aller sur n'importe quelle, pas n'importe quelle, mais différentes planètes, et on va avoir des choses à faire sur la planète, et on pourra avoir des membres de l'équipage qui vont descendre sur la planète, mais vraiment, il n'y a pas de temps de chargement, quoi. On monte dans notre petit vaisseau qui sort du grand vaisseau et on arrive sur la planète, on se bat et puis on peut remonter sur le grand vaisseau. Et pendant ce temps, le commandeur qui reste dans le vaisseau, il peut nous avoir du soutien, il peut nous envoyer du soutien tactique depuis le vaisseau et faire exploser des trucs. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Donc, c'est un truc à suivre, et je crois que si j'ai le temps, je voudrais me replonger un petit peu dans Warframe au moment de la mise à jour de l'expérience de nouvel utilisateur, parce que c'est quelque chose qui est évidemment, quand un jeu est aussi riche et aussi vieux et qu'il accumule son contenu, entre parenthèses, ils ont aussi revu le moteur graphique qui a l'air assez beau dans sa nouvelle version. Mais quand un jeu est aussi riche, bah forcément, ça devient compliqué quand on débarque et qu'on ne comprend rien. Et donc, il faut prêter attention à cette expérience de début. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est assez enthousiasmant. C'est un jeu que... J'avais pas trouvé le gameplay suffisamment motivant pour moi. C'est des trucs très personnels, mais je serais quand même curieux d'y rejeter un coup d'œil à ce moment. Et puis de l'autre côté, il y a Destiny, dans lequel je me suis replongé. Je sais plus si j'en ai parlé la semaine dernière, mais vraiment, Destiny est un jeu dont je me rends compte que ça fait 5 ans qu'il est avec moi. Il y a peu de jeux qui sont restés avec moi aussi longtemps. Et il l'améliore en permanence. Alors, il y a eu des petits problèmes au lancement de Destiny 2, mais aujourd'hui, vraiment, on ne se lasse plus de dire qu'il est le meilleur qu'il ait jamais été, mais ils ont une approche du jeu as a service qui est super intéressante, c'est-à-dire qu'ils rajoutent des activités de endgame avec chaque nouvelle saison, chaque nouvelle mise à jour, et elles sont toujours pas trop mal foutues, voire super bien foutues et motivantes, et il y a des armes qu'on veut toutes, et il y a plein de quêtes super complexes, mais en même temps motivantes et intéressantes, et un système de leveling du niveau d'équipement qui est vraiment... ils ont trouvé la manière de le gérer. Je pourrais en parler pendant des heures, mais peut-être qu'à un moment, s'il y a la nouvelle extension qui arrive là en automne, je crois que c'est le 17 septembre, dans laquelle je vais me jeter... Et peut-être qu'on refera encore un épisode spécial Destiny à un moment, je ne sais pas, on verra, mais parce que je pourrais vraiment en parler longtemps. Et c'est intéressant comme jeu, parce que c'est un bon jeu, mais c'est aussi intéressant comme solution qu'ils ont apportée à ces problèmes de design pour les jeux as a service, pour les jeux service qui durent aussi longtemps. Et qu'est-ce qui est motivant pour la communauté? Qu'est-ce qui est intéressant à développer? Et ils ont trouvé vraiment la bonne formule. Pour résumer, en gros, ils ont un Season Pass dont j'étais très sceptique après la déception des extensions de la première année. C'est pas un Season Pass, c'est un Annual Pass, en fait. Ils ajoutent un petit peu de contenu tous les trois mois, une nouvelle activité. Plutôt que de faire une nouvelle ligne de quête, une nouvelle histoire, etc., qui finalement n'a pas grand intérêt, ils rajoutent une nouvelle activité qui est un petit peu différente des strikes, donc des donjons, on va dire, ou des activités PVP ou de ce genre de choses, qui a toujours la même base, qui est qu'on tire sur des aliens, mais c'est une manière différente de l'approcher. Ils ont des armes nouvelles qu'on peut chasser ou des objets d'armure qui vont changer la manière dont vous jouez un tout petit peu. Et ils vous poussent avec chaque nouveau contenu, chaque nouvelle mise à jour, à essayer ces nouvelles activités qui sont vraiment suffisamment différentes pour être sympas, qui offrent suffisamment de variété. Et en même temps, les gens qui n'ont pas acheté le pass annuel, eh ben, ils peuvent continuer à jouer. Et bon, on fait un petit peu la même chose du coup, mais on peut continuer à apprécier le jeu sans être bloqué par, bah oui, avec la nouvelle mise à jour, bah, votre niveau, vous ne pouvez pas monter au niveau de la nouvelle mise à jour. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que si on a le contenu, bah, on a le nouveau contenu, en plus du fait de pouvoir monter au nouveau niveau. Et c'est vraiment la bonne formule. Donc, je suis curieux de voir comment ils vont faire ça avec la prochaine extension. Et je crois qu'ils ont, je l'ai dit plusieurs fois, trouvé vraiment le bon équilibre. Donc, à voir ce qui se passera en septembre. Moi, j'ai bon espoir là que cette fois-ci soit la bonne. Et je vais être avec eux pour ce merveilleux voyage. Quelques petites choses supplémentaires. Il y a Shadow of War qui est ajouté au Game Pass en juillet. C'est le jeu du Seigneur des Anneaux. Si vous ne l'avez pas essayé parce que vous étiez rebuté par les différentes controverses qui étaient autour du jeu, je ne vais pas revenir dessus, mais c'était... bref, j'ai dit que je ne vais pas revenir dessus. Vraiment un excellent jeu. Si vous aimez les jeux un petit peu arcade, open world, sympa dans cet univers, ne le ratez pas. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont le Xbox Game Pass aujourd'hui et avec la promotion, tout ça. Donc, si vous avez du temps à perdre cet été, et bon, on a un petit peu trop de jeux pour ça, mais si vous avez du temps à perdre, essayez Shadow of War. C'est vraiment un super, super jeu et je trouve qu'il a été injustement, peut-être pas assassiné, le mot est fort, mais injustement critiqué à sa sortie pour tout un tas de raisons. Et je suis convaincu que vous aurez une bonne expérience en le testant aujourd'hui. Au-delà de ça, de quoi je voulais parler, Cuphead arrive en série animée sur Netflix. Bon, je comprends, évidemment, hein, c'est tellement animé que... Ok. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Est-ce que ça va être un truc d'animation pour adultes, peut-être. Je ne sais pas, je suis un petit peu circonspect, mais on verra. Et puis surtout, beaucoup plus important que ça, il y a un nouveau film, Mortal Kombat, qui est en production. Et ça, alors le premier était tellement kitsch, tellement mauvais et tellement bon parce qu'il était mauvais qu'on en garde tous un souvenir ému. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce nouveau Mortal Kombat? Je pense que ça pourrait être un film vraiment... Alors j'hésite à dire un bon film parce que je ne suis pas convaincu qu'il sera bon, mais qui pourrait être fidèle à ce qu'est devenu le jeu. Mais est-ce qu'ils seront aussi violents? Je pense que c'est difficile à faire en film parce que ça serait scandaleux presque. Mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Ça pourrait être un super moment de cinéma jeu vidéique s'ils gèrent les choses bien. Donc je ne savais pas qu'il y avait un film en préparation et je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Bon, on n'a pas de date encore, ça risque d'être dans un petit moment. Voilà pour tous les petits sujets que je voulais couvrir avant de m'éclipser jusqu'à la Gamescom. On sera de retour à ce moment-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas... oui, pendant les vacances, le rendez-vous tech continue avec des épisodes spéciaux et tout un tas de choses sympathiques. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au rendez-vous tech si vous n'êtes pas déjà abonné. Lui, reste là. Et puis, vous pouvez aller commenter sur frenchspin.fr, comme toujours, si vous avez des choses à dire sur les sujets que j'ai évoqués ici. Et puis, on se retrouve donc dans quelques semaines. Si vous voulez me suivre pendant les vacances, NotePatrick sur Twitter, NotePatrick sur Facebook et surtout NotePatrick sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram, hop, @NotePatrick, vous allez me suivre là-bas. Vous aurez plein de photos super sympas. Je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Donc, NotePatrick sur Instagram. Merci à vous tous. Je vous fais de grosses bises. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Un bon été pour ceux qui ne sont pas en vacances. Et puis, on se retrouve dans quelques semaines. Ciao à tous.